Bonjour, chers amis. C'est la loi de séparation du 9 décembre 1905 qui donne la coloration particulière à ce que l'on a appelé la laïcité à la française. Beaucoup plus complexe qu'on ne croit, cette loi a été plus d'une fois modifiée dans ses applications. Mais les deux premiers articles en donnent l'esprit et les principes. Si 1904 avait vu la rupture des relations diplomatiques entre la France et le Saint-Siège, 1905 reprend les relations entre l'État et les Églises par un autre biais, celui qu'on pourrait appeler du chacun chez soi, en définissant pour l'un une sphère publique et pour les autres une sphère privée. Non pas pour détruire définitivement la religion catholique, dont on pense qu'elle survivra comme elle l'a fait par le passé, mais pour soustraire l'État et la société à son influence et à ses principes. Les dispositions de cette loi sont au nombre de quatre. Tout d'abord, la République assure la liberté de conscience. Deuxièmement, la République garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées par la loi, dans l'intérêt de l'ordre public. Il faut alors apporter ici deux précisions. Tout d'abord, le texte parle de culte, c'est-à-dire en 1905, d'un ensemble de pratiques et de croyances autour du bâtiment église. Il s'agit d'abord des célébrations, les messes, les baptêmes, les communions solennelles, les mariages, les enterrements, mais aussi du prône, de la prédication, du catéchisme, de la visite et du viatique aux malades, du réconfort des mourants, et de tout ce qu'un bon curé doit à ses paroissiens. Mais dans le mot culte, la loi englobe aussi tout ce par quoi le culte existe, à savoir les ministres ordonnés, leur logement, le presbytère, leur formation, les séminaires, ainsi que l'autorité épiscopale qui les gouverne, avec sa cathédrale, son chapitre et son évêché. Et ce culte était à distinguer de l'exercice du culte, c'est-à-dire de la gestion des moyens qui servaient à l'activité religieuse. Deuxième précision, les réunions du culte ne sont pas des réunions privées, mais des réunions publiques soumises à autorisation, sauf à entraîner ce qu'on appellera le délit de messe. Troisième disposition de la loi 1905, la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Cet article pourrait paraître contradictoire avec le précédent, si on ne précise pas aussitôt que ce qui n'est plus reconnu, c'est ce qui existait au XIXe siècle, à savoir les cultes érigés en service public, rémunérés sur le budget de l'État et des communes, et gérés sous la responsabilité de ces derniers. Toutefois, cette disposition est assortie d'exceptions, puisque la loi maintient la rémunération des services d'aumônerie dans les lieux publics, où les personnes qui s'y trouvent ne peuvent exercer librement leur culte, comme cela est prévu dans le début de l'article 2, du fait de l'enfermement par exemple, et où il faut donc assurer ce service. Ce terme d'assurer est fort de conséquences juridiques. L'État doit donc permettre à chacun, sans exception au culte, de pratiquer, de vivre sa liberté de conscience, et dans la situation qui nous intéresse, sa liberté religieuse. Quatrième disposition, les établissements publics du culte, c'est-à-dire les fabriques pour les catholiques, les conseils presbytéraux pour les protestants et les consistoires pour les juifs, ces établissements auxquels le concordat avait donné la gestion des cultes sous le contrôle des maires, ces établissements sont supprimés. Des associations cultuelles sont prévues dans chaque commune pour récupérer après inventaire la propriété des biens mobiliers et immobiliers réaffectée au culte depuis la fin de la Révolution française. Ces associations, qui ne peuvent être présidées par des curés, des pasteurs ou des rabbins, mais seulement par des laïcs, seront refusées par l'Église catholique. La laïcité de 1905 n'est pas le refus de la religion, mais sa contrainte. Deux choses particulièrement importantes sont dites dès les premiers articles de la loi. D'abord, l'État n'a plus de relation organique avec les cultes. Ceux-ci n'ont plus de statut officiel. Ils ne sont pas des corporations de droit public, comme en Allemagne, mais de droit privé, sans droit particulier ou spécifique. Séparé de ces cultes, l'État n'intervient plus dans leur fonctionnement interne, sauf, de façon très restrictive, pour faire respecter l'ordre public. Ensuite, l'État pourtant n'ignore pas le fait religieux, puisqu'il en garantit l'existence non seulement sous l'aspect individuel, mais aussi sous l'aspect institutionnel et sous la dimension sociale que sont les cultes par leur libre exercice, et puisqu'il assure la liberté de conscience. Laïcité de l'État ne veut donc pas dire refus ou ignorance des religions, mais non-inféodation et distinction des domaines. La laïcité de la République désigne la neutralité de l'État et son indépendance vis-à-vis des foi religieuses et des convictions philosophiques, ce qui ne veut pas dire qu'il n'a pas de relation avec elles, mais il les instaure sur d'autres bases. Nous verrons plus loin que la République française connaîtra dans son fonctionnement plusieurs modes de relation. Mais nous avons là tous les fondements historiques et juridiques de notre laïcité. Il s'est agi tout à la fois de reprendre et de poursuivre la laïcisation de la vie publique, de lutter contre l'enseignement libre et les congrégations religieuses, que l'Église catholique avait su reconstruire et même renforcer depuis la fin de la Révolution, et d'assigner l'État dans la sphère publique et les Églises dans la sphère privée. Avec tout de même une nuance qui n'est pas négligeable, c'est l'État qui désormais impose sa loi aux Églises, en illustration de la fameuse phrase d'Ernest Renan, prononcée en 1882, « La laïcité, c'est l'état neutre entre les religions, tolérant pour tous les cultes et forçant l'Église à lui obéir en ce point capital. » À cela, il y avait deux raisons principales. Une raison de philosophie politique. Les républicains estimaient intolérable que les églises, et surtout l'Église catholique, interfèrent sur les esprits, tant par l'enseignement que par les prédications, avec la crainte que les prêtres indiquent du haut de la chair pour qui il fallait voter. Et puis une raison financière. Par ces lois de 1881, 1882 et 1886, la République avait supprimé tout financement public aux écoles privées. La loi de séparation du 9 décembre 1905 étendait cette suppression de financement public à toutes les activités cultuelles et religieuses. La prochaine fois, nous verrons comment l'Église a réagi à cette loi de séparation.